puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scap 107.
Partout en France, les centres hospitaliers publics ont signalé leur détresse en menant différentes actions, souvent originales. À l'hôpital de Douai, le personnel ne cache pas non plus son désarroi face aux conditions de travail que vous avez d'ailleurs pu entendre dans nos différents reportages. Et nous avons aussi demandé des explications au directeur général du centre hospitalier de Douai, Renaud Daugimont, en commençant par évoquer la une du journal local L'Observateur du Douaisis, l'hôpital menacé par une dette colossale.
Oui, ben j'ai eu l'occasion d'échanger avec le journaliste hier qui avait écrit cet article. Et moi, j'ai trouvé que l'article était intéressant parce qu'il a le mérite de présenter justement le travail qui a été mené par la Chambre régionale des comptes pendant plusieurs mois chez nous et qui permet de rendre compte de l'évolution sur les dernières années, c'est-à-dire jusque l'année 2018. Et c'est vrai qu'on a un établissement qui a fait des investissements importants. Là, on a fêté l'année dernière avec vous les 10 ans de l'hôpital de Douai. Un hôpital de Douai qui a été entièrement construit à neuf, aussi bien le bâtiment principal de l'hôpital, que le pôle de santé mentale, le logipôle, l'EHPAD. Donc vous voyez, ça fait énormément de travaux. On est au total sur un montant d'investissement qui était à l'époque de 300 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est pas un investissement négligeable. Et du coup, c'est un investissement qu'on est en train de rembourser en fait sur une trentaine d'années. Là, vous voyez, il nous restait, au départ, on avait 300 millions d'euros d'investissement. Il nous reste à peu près, c'est ce qui est noté dans l'article, 112 millions d'euros à rembourser. Donc on est à la fois avec un niveau d'investissement qui peut paraître important pour vos lecteurs, parce que c'est vrai que quand on achète une maison, c'est plus 100 000 euros que 100 millions d'euros. Mais pour autant, à l'échelle d'un établissement qui fait travailler 2300 personnes, qui est à plus de 196 millions d'euros de budget, c'est une somme qui est raisonnable et sur laquelle on est sur un rythme de remboursement qui est tout à fait logique et cohérent. C'est pour ça que ça a été validé à l'époque par l'Agence régionale de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie et bien sûr le ministère de la Santé.
En 2015, sur le site Hospimedia, vous vous félicitiez d'un équilibre budgétaire en disant que depuis 2012, ce n'était pas arrivé, là on est à l'équilibre. Aujourd'hui, l'Agence régionale de santé a contesté quand même le plan que vous proposiez, vous demande un contrat de retour à l'équilibre financier. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces trois années-là ?
Alors la question que vous soulevez, elle est tout à fait pertinente, parce que vous savez que les établissements de santé en France sont soumis à des règles du jeu qu'ils ne maîtrisent pas toujours. C'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Pour expliquer en fait à votre auditoire et à vos auditeurs, il faut savoir qu'en fait tous les ans les dépenses de santé dans un pays, elles augmentent. Et en fait le législateur tous les ans va définir l'enveloppe en fait dans le cadre duquel ce montant de dépenses peut évoluer. Ce qui fait que obligatoirement, on peut se retrouver parfois avec des années où on a insuffisamment de recettes par rapport aux dépenses qui sont dans un établissement de santé, puisque vous doutez que les gens qui travaillent dans un établissement, on ne peut pas, entre guillemets, du jour au lendemain, les mettre en chômage technique. Donc, bien entendu, ce sont des gens qu'on conserve avec nous. Ce qui veut dire que, en fait, au fil du temps, vous pouvez vous retrouver dans des situations où l'établissement est en déficit. Et à ce moment-là, la responsabilité de la direction de l'établissement, c'est de prendre des mesures progressives pour revenir en fait à l'équilibre. Et c'est ce qui explique le fait qu'on est passé effectivement d'une situation de relatif équilibre à une situation dans laquelle en 2017 l'activité a baissé, pas que au centre hospitalier de Douai, mais sur tous les établissements de la région de France. C'est ce qu'on a constaté. Et du coup, le déficit s'est creusé. Et en fait, qu'est-ce que j'ai proposé comme politique au directoire et au conseil de surveillance ? C'est de se dire, on ne va pas réduire le déficit d'un coup et passer de 5,7 millions à 0 euros de déficit sur un an, parce que sinon, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire des licenciements, ça voudrait dire des fins de contrat. On va piloter ça de manière pluriannuelle et on va revenir progressivement à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on est passé de 5,7 millions de déficit sur l'année 2017. Là, on va clôturer cet exercice budgétaire de l'année 2017 à 3,7 millions d'euros de déficit. Et l'année prochaine, sur cette année, on vise 3,2 millions avant un retour progressif à cet équilibre.
Vous avez regretté de devoir annuler votre cérémonie de vœux parce que le climat social était compliqué, puis que des professionnels aujourd'hui s'engagent en disant « on a beau faire tous les efforts nécessaires, il faut que cette enveloppe qui nous est allouée dans ce programme prévisionnel soit augmentée par l'État. Vous leur donnez raison ou pas? Ils ont raison également de se battre sur ce volet-là, en dehors des politiques d'économie que l'on peut structurer en interne.
Ça, c'est la liberté de chacun, je pense, et je pense qu'on a la chance d'être dans une république qui permet à chacun de s'exprimer. Après, moi, là où je suis soucieux en tant que directeur de l'hôpital, c'est toujours de véhiculer une bonne image de l'établissement. Parce qu'il y a énormément de choses qui se font dans l'hôpital de bien. On a beaucoup de médecins et de professionnels qui sont vraiment super investis. Et moi, mon souci, c'est de maintenir justement un message à la population qui est de dire vous pouvez faire confiance aux professionnels de votre hôpital. On continue de se battre à vos côtés parce que les problèmes de santé sur le Douaisis, ils sont loin d'être réglés malheureusement et on essaye de trouver des solutions pour revenir progressivement à l'équilibre. Dans le même temps, il faut aussi qu'on soit respectueux de la gestion des deniers publics parce que c'est une responsabilité qui nous incombe parce qu'on est des hôpitaux publics et qu'on fonctionne avec, les deniers qui nous sont confiés par les citoyens. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on arrive à avoir cet équilibre-là. On a, et vous le soulignez à juste titre, proposé deux plans de retour à l'équilibre financier successif. Pourquoi on en a proposé deux? Parce qu'on est allé de manière graduée, parce que notre objectif, c'est toujours d'être à cheval entre deux impératifs qui sont pas toujours faciles à concilier. Entre, d'un côté, il faut un équilibre financier, c'est vrai. De l'autre côté, en termes de qualité des soins qu'on doit donner aux patients, en termes de politique sociale, parce que c'est ce qu'on fait, vous savez que c'est ce qui nous démarque par rapport au reste des hôpitaux en France, c'est qu'on a le souci sur le centre hospitalier de Douai d'avoir une politique sociale qui soit une politique pluriannuelle, avec des avancements de grade, avec des titularisations, avec des CDIsations. Et c'est pour ça qu'en fait, on a maintenu cette courbe de retour à l'équilibre progressif, et que dans le deuxième volet du plan de retour à l'équilibre, en fait, on n'a pas augmenté, des efforts supplémentaires d'économie, on a mis l'accent sur le développement d'activités. Et vous voyez que c'est différent entre d'un côté dire on va diminuer les dépenses, et par exemple les dépenses de personnel, et de l'autre côté dire on va se donner les moyens, parce qu'il faut savoir que sur cette année, on a recruté 12 médecins supplémentaires. Vous voyez que notre optique, elle n'est pas, entre guillemets, pour simplifier, de réduire la voilure de l'hôpital public, mais plutôt d'essayer de se donner les moyens de positionner des spécialistes et des nouveaux médecins là où on a des besoins sur notre territoire et là où on sait que ça fera davantage d'activités.
La journée du 14 février, la déclaration d'amour à l'hôpital qui est programmée, c'est quoi? Ça va dans le bon sens, parce que ça réconcilie le patient, le territoire avec l'hôpital?
Là-dessus, j'ai un devoir de réserve, donc je pense que vous comprendrez que je ne m'exprime pas là-dessus. Moi, je suis sur la stratégie de développement de l'hôpital. Et après, comme je viens de vous le dire, chacun est vraiment libre dans ce pays de pouvoir faire ce qu'il estime être juste pour faire valoir ses opinions.
Toute dernière question sur ce que vous comptiez annoncer. Justement, vous avez évoqué la CDIsation avec, on va l'annoncer parce que c'est important également, avec la prise en compte des années passées en qualité de contractuel. C'est-à-dire que c'est une véritable politique sociale pour créer l'unité du groupe au sein de l'hôpital, je ne vais pas dire l'entreprise, mais de l'hôpital.
Oui, vous avez tout à fait raison. Notre objectif, c'est vraiment au fur et à mesure, vous savez, les professionnels, on a vraiment conscience au niveau, je pense, de la direction comme des membres du conseil de surveillance qui font beaucoup de choses pour les patients, qui font beaucoup de choses pour leur hôpital. Et c'est pour ça que je souhaite, dès qu'on en a la possibilité, dès qu'on a des capacités financières, de leur donner beaucoup plus d'attractivité et puis de leur donner plus de lisibilité. Et quand on peut donner un coup de pouce, jusqu'à présent, en fait, si vous voulez, ce qui se passe dans l'ensemble des hôpitaux en France, c'est que vous êtes dans un premier temps pour expliquer à vos auditeurs en CDD, et après vous passez en CDI. Et bien jusqu'à présent, le temps que vous aviez passé en CDD, on ne le reprenait pas pour calculer une ancienneté et vous permettre d'accéder à un niveau de rémunération supérieur. Et bien là, ce qu'on va faire au cours des prochaines années, et ça va être effectif dès cette année 2020, et on va l'étendre progressivement à l'ensemble des personnes, c'est de dire, pendant un an, deux ans, trois ans, vous avez été en CDD, ce temps-là n'est pas perdu. Quand vous passez en CDI, on va reprendre en compte cette ancienneté et vous allez du coup en CDI avoir un niveau de rémunération plus important.
Alors, suite à l'annulation des vœux, vous avez envoyé un communiqué au personnel avec plusieurs annonces. Vous pouvez revenir sur certaines choses, notamment l'investissement du quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, l'investissement du quotidien, vous savez que dans un hôpital, on a régulièrement des grands travaux. Par exemple, dans un an, on va se doter d'un nouvel IRM, c'est-à-dire un nouvel outil de dépistage. On est entre 2 et 3 millions d'euros. Vous voyez, pour vous donner un ordre de grandeur, on est vraiment sur ce qu'on appelle des grands investissements.
Finance toujours les investissements ou pas?
Non, c'est l'Agence régionale de santé et c'est le gouvernement qui participe en fait à ce financement. Et donc, du coup, aux côtés de ces grands investissements, vous avez ce qu'on appelle les petits investissements du quotidien. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand on s'était rencontrés au moment des vœux, on avait annoncé qu'on avait fait le tour de l'ensemble des services, la direction des achats, pour justement aller revoir s'il manque un stéthoscope, s'il manque un brancard, s'il manque du petit matériel, parce que souvent ce qu'on peut vivre dans les hôpitaux, c'est « ah bah oui, mais il manque tel type d'outils, tel type de matériel, et du coup ça pénalise tout le monde ». Donc on l'avait fait, on avait remis, je vais dire à neuf entre guillemets, on avait réarmé, ce qu'on appelle dans notre langage réarmé l'ensemble des services. Et bien là, c'est l'occasion à travers ces aides qui nous sont données par l'Agence régionale de santé, qui est une déclinaison en fait des annonces de la ministre de la Santé. On a à peu près 293 000 euros qui nous sont donnés cette année et encore l'année d'après et encore l'année d'après. Et bien moi, ce que j'ai souhaité, c'est que plutôt que ce soit décrété de la direction générale de dire on achète ça, ça ou ça, ou on concentre sur un seul achat, sur un grand équipement, ce qu'on va faire au contraire, c'est qu'on va laisser aux chefs de service, aux cadres de santé, aux chefs de pôle, cette possibilité de décider à leur niveau ce qui est le plus important pour eux.
Justement, ces petits équipements, ils vont leur faciliter la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des manques.
Mais nécessairement, vous savez, je pense que ce soit dans une administration ou dans une entreprise, quand on discute avec les gens, il manque toujours un petit quelque chose. Comme disait ma grand-mère, il manque toujours un sou pour faire un franc, mais c'est ça. On est souvent parfois pénalisé parce qu'il manque un petit truc, que des fois on a peu le réflexe de le demander, ou on pense qu'il n'y a pas l'argent pour, donc on s'auto-censure, entre guillemets. Là, c'est vraiment l'opportunité pour chacun de se mettre autour de la table, dire bah, « il manque ça ». Voilà.
Quand on entend les personnes, on a pu en interviewer lors de manifestations ou à Douai, beaucoup réclament plus de personnel ou alors disent qu'il y a un taux d'absentéisme aussi qui fait que dans certains services, ils se retrouvent trop peu pour faire leur travail correctement. Qu'est-ce que vous répondez à ça face à ces contestations qu'on entend beaucoup de manque de personnel?
Mais on ne peut que entendre ce besoin de personnel supplémentaire. Après, c'est se dire de quoi on dispose comme armes, et vous venez de les donner en fait, les armes, pour se doter de moyens humains supplémentaires. La première chose, c'est de se dire, est-ce qu'on peut agir sur l'absentéisme ? On peut agir, mais en fait, on peut agir par des mesures, je vais dire, préventives, en associant l'encadrement, en associant le management, en associant les médecins. Et c'est pour ça qu'on a créé un groupe de travail qui associe non seulement la direction des ressources humaines, la direction des soins, mais qui associe les médecins, qui associe les cadres de santé pour réfléchir vraiment service par service. Parce qu'en fait, vous le savez, l'absentéisme, c'est plein de petits facteurs qui peuvent être différents d'un service à l'autre. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de travailler pour voir justement comment on peut agir de manière durable sur l'absentéisme. Et puis l'autre pari qu'on fait, c'est pour effectivement être en capacité de recruter, il faut qu'on ait les moyens financiers. Donc ça veut dire que travailler sur le développement de nouvelles activités, sur le recrutement, là où on avait entre guillemets des trous dans la raquette en termes de spécialité médicale, là où on avait des manques en termes d'équipement, on vient combler, parce que l'objectif, c'est pas qu'un hôpital soit excédentaire, c'est qu'il soit en équilibre. Et pourquoi il doit être en équilibre? Parce qu'en fait, derrière, on a besoin, pour réinvestir dans un hôpital, d'avoir suffisamment d'argent de côté.
Alors, il y a également ce qui est externalisé maintenant pour faire des économies. L'externalisation, elle peut aller jusqu'où? On peut tout externaliser dans un hôpital?
Non, tout ne s'externalise pas dans un hôpital, vous avez tout à fait raison. Il y a des fonctions sur lesquelles on est en capacité d'externaliser. C'est ce qu'on a fait sur certaines parties, notamment au niveau du bio-nettoyage. C'est après des choses qui sont déjà existantes depuis des années, comme pour tous les établissements, les transports sanitaires par exemple. Le tout, c'est toujours d'avoir un niveau d'exigence en termes de qualité pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. C'est aussi de pouvoir le faire avec toujours un regard et une attention humaine. C'est-à-dire que pour revenir sur les secteurs, sur le secteur qu'on est en train d'externaliser, qui est le bio-nettoyage, nous, ce qu'on fait, ce n'est pas des fins de contrat ou des suppressions de postes. Au contraire, il n'y aura pas de suppression ou de gens qui vont sortir de nos effectifs. On est en train de travailler avec eux sur 3 années pour que chacun puisse au fur et à mesure être accompagné de manière individuelle et que ce soit une possibilité pour eux de travailler dans des nouveaux secteurs. Donc cet accompagnement-là, pour moi, j'estime qu'il est de la responsabilité de l'employeur et c'est ce qu'on met en place sur les années à venir.
Vous devez composer avec l'univers politique local. Le député de la circonscription, M. Brunel, a fait de l'hôpital son cheval de bataille. D'abord, sentiment, c'est bien d'avoir des élus comme ça, de quelque sensibilité qu'ils se soient, intéressés à la question de l'hôpital.
L'hôpital, c'est un vrai sujet de société. Donc moi, que les gens, que ce soit des élus ou des citoyens, se questionnent, réfléchissent et fassent des propositions sur l'hôpital public, j'y vois sincèrement aucun inconvénient.
Monsieur le député, à un moment, a dit comme ça, mais par exemple, le service sécurité incendie, il ne fait pas que ça. On le retrouve également appelé parfois pour venir donner un coup de main aux urgences quand ça va mal, quand la situation devient compliquée. Là aussi, c'est quelque chose de spécifique. C'est-à-dire qu'il y a un peu de... Je vais pas être méchant, mais il y a un peu de débrouille. Finalement, il faut faire avec ce qu'on a face à des situations parfois assez compliquées.
Bah, pas vraiment, parce que si vous voulez, une équipe de sécurité incendie, et ça a été toujours vrai tout le temps dans les hôpitaux, elle intervient certes sur de la prévention sur la sécurité incendie, mais vous vous doutez bien, et heureusement pour nous, il n'y a pas des incendies tous les 4 matins dans les hôpitaux, ni des départs de feu. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi des fonctions qui sont aussi prévues dans un cadre réglementaire, qui sont de pouvoir intervenir sur des petites pannes, sur de la petite maintenance, et aussi parfois quand on a des situations d'agressivité.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé.
Concernant justement le député Alain Brunel, il a produit un slam interprété par Hugo Dess, posté sur internet. État d'urgence, soutien à l'hôpital public.
Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse, on m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux. Entre état et urgence, j'ajoute un dé au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir compte les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblant de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France à souffrance, ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie, on en a qu'une, et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie, on en a qu'une, et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire, regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseils d'experts. Qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur air. Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas près de se taire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie, on en a qu'une, et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie, on en a qu'une, et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Alors luttons, luttons, luttons pour ceux à genoux. Luttons et résistons pour montrer qu'on est debout. Alors luttons pour nos idées, pour que le vieil homme de tout à l'heure ne pense plus à ses cachets et pense plutôt au bonheur. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux, allez, tiens-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble, on est demain.
C'était État d'urgence soutien à l'hôpital public, interprété par Hugo Dess et produit par le député Alain Brunel. Aujourd'hui, dans La Puce à l'oreille, rencontre avec Renaud Daugimont, le directeur du centre hospitalier de Douai, qui nous parle aussi des projets, notamment dans l'alimentation, pour l'hôpital de Douai.
Les grands projets sur 2020, on a effectivement tout un projet autour de l'alimentation, vous avez raison. C'est un projet qui, moi, me tient à cœur, qu'on mène depuis maintenant plusieurs années. Quand, par exemple, on est passé du repas qui était dans des petites coupelles en plastique, on est passé sur du service à l'assiette. Et on était précurseur à l'époque, et maintenant on se rend compte que de plus en plus d'hôpitaux sont en train de rebasculer là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'avoir une dimension de plaisir quand on est hospitalisé. En plus, on est en France, donc les plaisirs de la table, c'est quand même très important pour nous. Eh bien, on fait à chaque fois tout ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on va travailler, par exemple, sur la manière dont on consomme pour réduire. Sur 3 ans, on a diminué de 40% les déchets, c'est-à-dire que tout ce qu'on jette parce que ça n'a pas été utilisé, vous voyez que ça, c'est écologique, mais ça nous permet aussi d'augmenter le niveau qualitatif et gustatif de ce qu'on donne aux gens. Et ça nous permet de travailler avec aussi nos équipes hôtelières, les services de la restauration, pour proposer des plats qui sont faits maison. comme de la soupe faite maison, par exemple, comme dans nos animations en maison de retraite, une pâtisserie qui va être faite maison, des tartes qui sont faites maison. C'est, moi, mon objectif de pouvoir montrer qu'au niveau du service public hospitalier, on est en capacité de proposer des choses qui nous démarquent de la concurrence et qui nous démarquent du secteur privé. Et c'est ce qu'on est en train de réussir. On participe, comme vous le soulignez, à un groupe de travail national qui s'appelle Repas à l'hôpital, dont l'objectif, là encore, c'est de permettre aux personnes de découvrir des nouvelles choses qu'ils n'ont pas nécessairement chez eux, de découvrir d'autres nourritures, de découvrir qu'ils ont parfois de la richesse dans leur terroir à proximité, je vais dire immédiate. Je vais vous prendre un exemple. On avait l'habitude, pour consommer toujours le moins cher possible, de parfois faire appel à des fournisseurs. Vous aviez des poires qui venaient de Pologne ou de Hongrie. Alors, j'ai rien contre la Pologne et la Hongrie, mais il est dommage, quand on a des petits producteurs locaux à côté de la Rajoie, de ne pas faire appel à eux. Et bien maintenant, c'est ce qu'on fait. On a des poires qui vont venir de proximité immédiate, et au maximum, on va faire justement la promotion de la nourriture locale et de tout notre savoir-faire culinaire qu'on a dans le Nord et dans le Pas-de-Calais.
Et c'est fait sur place certains craignaient que ce soit externalisé aussi l'alimentation.
Le maximum qu'on peut faire sur place, on le fait sur place. C'est l'objectif, et puis ça permet de mettre en valeur tous les savoir-faire des gens qui travaillent dans notre restauration.
Puis vous êtes lancé également dans un projet, peut-être l'expliquer à l'auditeur parce que rien que le mot est compliqué, le projet de responsabilité populationnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là ?
Ça veut dire.
Alors, c'est effectivement, vous avez raison, le terme est complexe, mais vous allez voir que la réalité, elle est très simple. On s'est rendu compte en réfléchissant en fait avec nos soignants que souvent on était frustrés parce qu'on voyait arriver à l'hôpital des gens qui étaient malheureusement à un stade très avancé de leur maladie, parfois à un stade terminal, et le regret, c'est de se dire, mince, si cette personne avait pu être dépistée avant, si elle avait eu un médecin traitant avant, si on lui avait donné des bons conseils en termes de pratiques sportives, de pratiques nutritionnelles, on n'en serait pas là. Et en partant de cette frustration-là, on s'est dit, il va falloir penser autrement. Et il va falloir qu'on essaye de se projeter en disant, voilà, dans notre population au niveau du Douaisis, sur nos 260 000 habitants, combien sont par exemple à risque de développer de l'insuffisance cardiaque ou de faire du diabète ? On est parti du coup sur ces données chiffrées-là et on a remonté progressivement en se disant, comment faire pour éviter que cette maladie se déclare et qu'elle ne soit pas diagnostiquée ? Comment faire pour éviter que la maladie s'aggrave ? Et on a travaillé en fait avec les acteurs, les médecins de l'hôpital, avec les médecins de ville, les infirmières de ville, les pharmaciens, tous les corps de métiers confondus, pour dire, on va réfléchir ensemble pour appliquer les meilleurs protocoles qui sont validés au niveau scientifique international, et comment on va le faire, non pas chacun de notre côté, mais comment on va le faire vraiment tous ensemble, et comment on va pouvoir mettre en place des démarches non plus uniquement de soins, mais des démarches de prévention, pour faire en sorte que les gens n'arrivent pas à ce stade d'une maladie chronique, là où on peut faire des dépistages avant, là où on peut soigner, là où on peut donner des conseils en termes d'hygiène de vie. Et c'est tout ce travail qu'on est en train de mener.
Vous évoquez le rôle important du médecin de ville. Aujourd'hui, quand on arrive à Douai, si on vient s'installer à Douai, qu'on vient d'une autre région, c'est compliqué que de trouver un médecin qui accepte un patient supplémentaire.
Vous avez tout à fait raison, parce que c'est vrai que la démographie en termes de médecins généralistes, elle n'est pas évidente sur la région Hauts-de-France, elle est encore moins sur le Douaisis. Et c'est aussi pour ça qu'on fait, nous, le maximum au niveau de l'hôpital public, non pas pour se substituer aux médecins de ville, mais pour faire tout ce qui est en notre pouvoir, pour que quand un médecin hésite entre deux territoires d'implantation, entre le Douaisis et un autre, ils disent, le Douaisis travaille facilement avec la ville. Si j'ai un problème, je peux appeler, j'ai directement par exemple un cardiologue de l'hôpital au bout du fil, ou un urgentiste qui va me dire, écoute, il y a peut-être une menace d'infarctus, envoie-le-moi, ou écoute, je vais le voir demain, je prépare son hospitalisation. Et tout ça, c'est ce qu'on est en train justement de travailler avec la ville depuis plusieurs années, c'est ce qui porte ses fruits. Par exemple, sur cette année, on va étendre notre plage de rendez-vous qui peuvent être pris sur les différentes spécialités de l'hôpital, et on prévoira des plage de rendez-vous spécialement pour les médecins généralistes, pour que quand ils ont le patient en face d'eux, ils puissent lui dire, attendez, je vais programmer avec vous votre hospitalisation. Donc on va passer par le système Doctolib, que je pense certains de vos auditeurs connaissent parce que c'est en train de devenir une référence en termes de prise de rendez-vous. On va travailler avec eux pour justement offrir ces opportunités quand un médecin généraliste va s'implanter, de lui faciliter le travail.
Concernant les les personnes qui arrivent avec déjà un stade avancé de la maladie. Il y a aussi, on l'avait vu dans les chiffres, on l'avait déjà évoqué, on est dans un des territoires de France où les gens sont les plus démunis en termes de santé. Les gens vont mal en termes de santé. Qu'est-ce qu'il faut faire encore là, ces prochaines années pour essayer de diminuer ce chiffre de gens en mauvaise santé dans le Douaisis?
Alors, il faut travailler, vous avez raison, c'est sur de la durée, et c'est essayer de passer d'une démarche purement axée sur le soin, sur ce qu'on appelle le curatif, à une démarche où on va prendre en soin la totalité de la personne. Et donc nous, c'est ce qu'on... C'est notre démarche militante au niveau de l'hôpital de Douai, c'est de dire il faut qu'on travaille d'abord avec les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les kinés qui travaillent déjà en ville pour qu'on ait une vraie continuité dans les soins, que quand la personne ressort de l'hôpital, on sait qu'elle va être bien prise en charge de la manière qui est la plus souhaitable, telle que l'a défini non seulement les acteurs de l'hôpital, mais aussi les acteurs de ville. Et donc, c'est faire en sorte que tout le collectif de santé y soigne. Et puis, c'est surtout qu'on aille à la rencontre, et c'est ce qu'on fait avec nos infirmières en santé publique, avec nos médecins. Vous avez régulièrement, dans les quartiers du Douaisis et sur l'ensemble du territoire, auprès des associations de quartier, des professionnels de l'hôpital qui viennent pour passer un message de prévention, pour faire des dépistages sur les principales pathologies du Douaisis, comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, le diabète, l'obésité, toutes ces pathologies dont on sait qu'elles font des ravages dans notre population, c'est l'aspect négatif, mais dont on sait aussi que ça peut très bien soigner si c'est pris en charge à temps. Et c'est notre objectif.
On va parler d'une spécialité, la psychiatrie. Voilà, on a vu dans l'actualité récente ce fait divers terrible de cette maman qui était en souffrance. C'est compliqué, finalement, cette unité de soins. On n'aborde pas ça de la même façon parce que la prise en charge, justement, du patient n'est pas la même. Comment on fait pour avoir cette estimation des besoins et de la prise en charge nécessaire sur un territoire comme celui du Douaisis? Quelle visibilité vous avez là-dessus?
Alors la question, elle est très technique, et je pense qu'un psychiatre sera beaucoup plus à même de vous répondre que moi. Ce que je peux vous expliquer, c'est comment on travaille avec nos psychiatres, avec les psychiatres de ville, en termes justement de stratégie. Notre première stratégie, c'est une ouverture maximale sur la ville. C'est d'être en capacité de développer des petites structures à taille humaine sur l'ensemble du territoire du Douaisis, comme par exemple à Orchy, comme par exemple à Douai intramuros. Et sur cette base-là, d'avoir du coup des structures qui soient lisibles et qui soient accessibles. C'est de travailler aussi avec les associations d'usagers. On a dans notre conseil de surveillance des représentants des usagers, c'est aussi qui sont les porte-parole et qui peuvent être parfois les portes d'accès. Le fait d'être dans les quartiers aussi nous permet parfois d'avoir ces signaux d'alarme qui peuvent être tirés par les gens en amont de manifestations de souffrance psychique importantes pour qu'on puisse les réorienter. C'est aussi d'avoir, comme on l'a au sein des urgences, on a une unité qui est dédiée aux gens qui se sentent pas bien, qui se disent à un moment donné ou qui disent à leurs parents « là, je risque de faire une connerie ». Eh bien, nous, on a un centre d'accueil de crise pour prendre en charge les personnes qui ont des idées noires, qui se sentent pas bien, dont ils se disent eux-mêmes « je pense que je vais essayer de me suicider ou d'attenter à mes jours ». Eh bien, là, on a un centre d'accueil de crise pour que ces gens-là, ils soient vus tout de suite et sans délai. Et puis après, notre objectif à nous, et c'est pour ça qu'on va signer un contrat local de santé mentale avec les élus du territoire du Douaisis, pour se dire, il y a l'hôpital, mais il n'y a pas que l'hôpital. Il y a plein de structures qui ont un rôle social, qui ont un rôle culturel, sportif, sanitaire, qui peuvent être autant de portes d'entrée pour que ces gens-là puissent trouver, je vais dire, une oreille et puis un cœur attentif pour être soignés.
Vous avez forcément le souci de l'image que renvoie et la confiance nécessaire, parce qu'il faut que le patient se sente en confiance quand il vient à l'hôpital. Vous avez l'impression que cette confiance, elle a été brisée, que la population, ou alors au contraire, l'hôpital aujourd'hui est véritablement reconnu pour la qualité de ses soins. On va prendre un exemple, par exemple. Les femmes font moins d'enfants et pourtant on accouche de plus en plus à l'hôpital. Vous l'expliquez comment ?
Alors, c'est vrai qu'on fait le maximum pour que la qualité des soins et la qualité de l'accueil puissent se développer au travers des projets qu'on mène avec les équipes. Je pense que les auditeurs qui sont venus chez nous vous auront sûrement dit qu'ils vont attendre des heures aux urgences, et c'est vrai, parce qu'on a un système de prise en charge des urgences qui repose sur la priorité absolue qui est donnée à l'urgence vitale, et que du coup, si vous venez chez nous avec une douleur au ventre, vous risquez d'attendre effectivement plusieurs heures sur un brancard. Mais à l'inverse, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un de vos proches ou vous-même, ou vous avez des signes qui vous laissent penser que vous allez faire un AVC, venez chez nous. On est l'un des hôpitaux qui sommes vraiment l'une des plus grandes portes d'entrée pour cette prise en charge. De manière graduée, on travaille avec les neurochirurgiens de l'hôpital de Valenciennes, du CHRU de Lille. Donc on a cette haute technologie et dans le même temps, je pense qu'on n'a pas renié un des fonds culturels de l'hôpital de Douai qui est cette capacité, cette qualité d'accueil et cette gentillesse. Et je pense que ça fait beaucoup. Et comme vous le soulignez, on arrive, c'est vrai, avec un territoire où la région de France, on est en baisse d'à peu près 4% sur notre natalité, à avoir 2,4% de naissance en plus sur l'année qui vient de s'écouler. Parce qu'aussi, je pense qu'on a, par exemple, sur la maternité, des sages-femmes et des gynécologues qui se disent comment va évoluer la demande d'accouchement en termes qualitatifs, en termes de ressenti. Et c'est pas à vous que je vais apprendre que le souci d'individualiser, de faire un projet de naissance pour son enfant, c'est quelque chose qui fait de plus en plus sens pour toutes les mamans et tous les papas en France. Et on s'est adapté, en fait, à ça. Et c'est-à-dire qu'on a mis en place une filière d'accouchement naturel en parallèle de l'accouchement médical. Et qu'on va laisser le choix aux parents, et surtout à la maman en première intention, de se dire, est-ce que vous voulez un accouchement qui soit plus médical parce que vous avez plus de besoins de sécurité, peut-être aussi parce qu'au fil des échographies, on s'est rendu compte qu'il y avait un risque médical et que c'était nécessaire, ou est-ce que, à l'inverse, vous souhaitez être dans ce qu'on appelle l'accouchement physiologique, où on a des sages-femmes qui sont formées, des gynécologues qui font la promotion de cet accouchement physiologique, et sur lequel on a une direction qui accompagne aussi en termes d'investissement, parce qu'on a investi pour créer une salle de danse, puisqu'on a maintenant fait le déclenchement par la danse. C'est une méthode qui est centenaire et qui vient du Brésil, et bien on l'a transposée. On a formé l'intégralité de nos sages-femmes à cela, de la même manière sur l'accouchement physiologique, tous nos personnels sont formés. Ça veut dire que quand vous venez accoucher chez nous, si vous avez défini au jour à J+1 votre projet, le jour de l'accouchement, vous savez que vous aurez une sage-femme formée pour accoucher comme vous l'avez décidé. Et ça veut dire que ça a créé une véritable synergie au sein de la maternité. Et quand vous savez, c'est un peu comme en sport, hein, quand vous avez une équipe sur laquelle il y a un vrai collectif, sur lequel le projet est partagé, bah vous êtes plus heureux de jouer à l'intérieur de l'équipe et vous avez souvent des bons résultats. Et je pense que les mamans, du coup, elles nous font confiance sur le fait qu'on va les aider à accoucher de la manière dont elles le souhaitent.
Je vais tenter de ne pas faire partir votre sourire, mais quand même, on va parler de ce qui se passe une fois que l'enfant grandit. La pédiatrie, actuellement, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur pédiatrique à l'hôpital de Douai ?
Au niveau de la pédiatrie, on est malheureusement confronté... Une fois de plus, j'allais vous dire, c'est partout France. Vous savez qu'on a de la difficulté à adapter, en fait, l'offre de spécialités et le nombre de médecins dans les différentes spécialités et les besoins et les départs. Et on se retrouve malheureusement en pédiatrie, comme au niveau des urgences, comme on a pu se retrouver en cardiologie il y a quelques années, sur des situations sur lesquelles on a plusieurs départs pour des projets individuels. J'entrerai pas dans le détail de la vie privée des gens, vous vous en doutez bien, mais où du coup ça peut remettre en cause tout un projet collectif. Et où là, il faut qu'on soit en posture d'accompagnement au niveau d'une direction, même si c'est pas toujours facile, pour entendre les différents pédiatres et entendre les équipes, et puis trouver des solutions. Mais je vous cache pas que c'est pas toujours très simple, parce que par définition, des nouveaux pédiatres, ça se trouve pas comme ça du jour au lendemain. On a des arrivées là qui sont en cours dans les prochains mois, mais vous savez comme moi, quand vous quittez un travail pour arriver sur un autre travail, ça prend un peu de temps. Et donc on gère actuellement avec les acteurs médicaux cette période de transition, qui est pas simple pour eux, mais sur laquelle nous on intervient. Par exemple, on a une situation difficile au niveau des urgences pédiatriques, qui sont importantes, qui accueillent à peu près 18 000 parents et surtout leurs enfants chaque année. Et bien là, quand c'est comme ça, on a recours à des pédiatres intérimaires pour justement assurer cette situation du mieux possible dans les circonstances.
Je vais vous faire sortir votre boule de cristal. Avec les annonces de Madame Buzyn sur la reprise, l'aide qui va vous être apportée cette année, 3 millions, c'est ça ? 3 millions l'année prochaine, 3 millions l'année suivante encore une fois. Le retour à l'équilibre, vous l'imaginez pour quand ?
Nous, le retour à l'équilibre, on le prévoit d'ores et déjà pour 2022, puisqu'en fait, quand on a signé le contrat de retour à l'équilibre, enfin, on va le signer, excusez-moi, dans les semaines qui viennent, on s'engage en fait sur une durée et sur une période à laquelle on va revenir à l'équilibre. Et nous, nous avons pu négocier plusieurs années avec l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire que ça sera pour l'année 2022. On a le soutien de l'Agence régionale de santé et aussi effectivement du ministère, puisque les annonces gouvernementales qui ont été faites par Mme Buzyn et par M. Philippe au mois de décembre nous permettent effectivement, nous ont permis d'avoir, vous le voyez, 300 000 euros là sur les dépenses d'équipement et vont nous permettre d'avoir 3 millions d'euros d'aide pour toutes les années à venir. C'est pas neutre, puisque pour vous puissiez vous faire une idée, tous les ans on rembourse 3 500 000 euros de dette. Donc si sur ces 3 500 000 euros on vient nous donner 3 millions d'euros, vous voyez que ça éponge déjà une partie de l'endettement de l'établissement et que, bah, vous voyez, quelque part, la boucle est bouclée puisqu'on était parti sur l'article de l'Observatoire du Douaisis. On y revient, vous voyez, 3,5 millions d'un côté, 3 millions d'aides supplémentaires. On voit qu'on va réussir à combler l'équation assez facilement.
On retrouve l'équilibre sans suppression de postes.
Oui, effectivement, c'est tout à fait notre objectif, c'est de rester sur une stabilité. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on va augmenter les effectifs, mais par contre, il est clair qu'on va maintenir et qu'on assure une stabilité des effectifs et que là où on a des perspectives d'embauche et de création de postes supplémentaires sur des spécialités médicales, on le fera.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
C'était les explications de Renaud Daugimont, directeur général du Centre hospitalier de Douai. Retrouvez-nous très bientôt sur les ondes de Radio Scarpe Sensée pour continuer à suivre les actions du Centre hospitalier de Douai.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
Plus à l'oreille sur Radio Scarpe 107.